Chapitre 46. Le 22 août 2016. 20h. Dissimulé par la haie un peu à l'écart de la plage de l'Oche Lucia, on aurait pu croire que le vigile posté devant la caravane avait été rejoint par trois copains, aussi carrés et musclés que lui, mais au look décalé. Le garde du corps affecté à la surveillance de la chanteuse italienne était vêtu d'un impeccable costume anthracite, alors que les trois hommes qui l'entouraient étaient habillés de treillis de chasse pour les deux premiers et d'un jogging sombre pour le troisième. Si quelqu'un s'était approché, mais la plage était presque déserte et la caravane isolée de la plage, il aurait vite compris sa méprise. Quatre visages sombres, certes, un black et trois types cagoulés. Maria Chiara les observa un instant à travers le velux de son vestiaire, puis se tourna vers son invité, debout devant un fauteuil de cuir rose framboise.
« Vous n'aviez pas besoin de faire descendre vos gorilles du maquis, » fit l'italienne. « Je vous aurais ouvert la porte sans eux. »
Clotilde s'avança et évalua elle aussi à travers la fenêtre les quatre hommes qui partageaient un thermos de café et semblaient avoir déjà presque sympathisé. Leurs fusils étaient pudiquement adossés à deux conteneurs à poubelle. Papé avait été efficace. Lors de la lente descente du Capo di Abetta, il avait utilisé le téléphone portable de Clotilde pour appeler quelques amis capables de neutraliser avec discrétion le bodyguard de Maria Chiara. La suite l'inquiétait davantage. Cassanou avait rejoint la bergerie d'Arcanou épuisé après 2 heures de marche. Il s'était effondré sur la chaise posée au milieu de la cour à l'ombre du chêne vert. Mamie Elisabetta avait profité de sa respiration rauque, lui interdisant de protester, pour faire venir le docteur Pinheiro, qu'il refusait habituellement de rencontrer pour autre chose qu'un vaccin antigrippal. Pinheiro avait immédiatement appelé une ambulance et ordonné au patriarche d'Arcanou une observation prolongée, doublée d'une cure de repos à l'antenne médicale de la Balagne. Elle plaignait d'avance la malheureuse infirmière qui, la première, aurait la mission d'annoncer à Cassanou, reposé, qu'il devait néanmoins rester au lit quelques jours supplémentaires. À presque 90 ans, le vieux Corse continuait de marcher chaque jour plusieurs kilomètres ou de nager quelques centaines de mètres. Clotilde détourna les yeux de la fenêtre.
« Je suis venue vous voir, Maria, l'autre jour après le concert, sans mon escorte, et vous ne m'avez pas ouvert la porte. »
Mais ce jour-là, vous n'étiez pas accompagnée de Brad Pitt.
Le regard de l'italienne se planta dans celui de Natale, assis sur le second fauteuil, vert pomme celui-ci. Mal rasé, ses cheveux blonds en bataille, Natale avait enfilé à la hâte pour venir la rejoindre un jean troué et un polo blanc au col échancré. Beau, calme, il émanait de lui une force féline, contrastant avec la vulgarité des ours bruns aux ordres de Cassanou plantés devant la porte. Clotilde essaya d'éteindre les braises de jalousie qui lui brûlaient le ventre, mais Maria Chiara se chargea de les attiser. Elle s'installa sur le petit tabouret posé devant sa loge. Un grand miroir, un simple lavabo et des dizaines de flacons de verre colorés, pailletés, ambrés, de pinceaux, de sticks de toutes les nuances de rouge, de pourpre et d'ocre.
« Quel plaisir !» poursuivit la chanteuse. « De vieux amis qui passent prendre le thé à l'improviste. » Mais vous m'excuserez, je dois me préparer. Mon concert commence dans 2 heures. Mon public m'attend. »
Elle cligna un œil amusé à son miroir, visiblement pas dupe de la motivation des ados prépubères qui venaient la voir plonger dans la piscine en maillot blanc transparent. Clotilde jeta un dernier regard à l'extérieur, vers les hommes cagoulés, puis repoussa le rideau de la caravane.
« Je suis désolée, » fit-elle. J'ai dû employer la force pour vous rencontrer, mais... »
La chanteuse avait fait glisser le peignoir léopard de ses épaules. Il pendait sur la chaise comme un trophée de chasse abandonné, alors que Maria Chiara, uniquement vêtue d'une culotte et d'un soutien-gorge rouge, leur offrait une vue imprenable sur son dos, de la rose tatouée sur la courbe de sa nuque jusqu'à l'arrêt de ses fesses. Le miroir du boudoir, plus indécent encore, se chargeait de l'exposer côté face. Natale restait du même faux marbre que celui des meubles autour d'eux. Une table, une commode, un guéridon, une statue de Vénus et Cupidon. Kitsch à souhait. L'intérieur de l'appartement d'une prostituée de luxe pour vieux friquets devait sans doute ressembler à ça, pensa Clotilde avec un peu de méchanceté. Une ambiance tamisée, du simili-cuir, du bois contreplaqué et des tentures pour masquer la misère.
Vous savez, plaisanta Maria Chiara, après 20 ans passés à jouer les starlettes sur Canale Cinque,
J'ai vu défiler toutes sortes de carabiniers.
Pinceau, coton, fond de teint passaient entre ses doigts experts. 2 heures pour se dérider.
Puisque c'était si urgent, continua la chanteuse. Allez-y, ne perdez pas de temps.
Clotilde se lança. Elle raconta tout, et pas une fois Maria Chiara ne l'interrompit. Elle combina les détails évoqués par Cherbonne et Spinello avec ses propres souvenirs. La journée du 23 août 1989, la virée à la Camargue programmée par Nicolas, la Fuego qu'il avait empruntée, qu'il avait essayé de conduire avec Maria Chiara assise sur le siège passager, l'accident apparemment bénin. La voiture n'avait rien sauf la direction, la rotule, l'écrou, la biellette. Lorsque Clotilde eut achevé son récit, d'un geste élégant, la chanteuse italienne fit pivoter son tabouret à roulettes. Pendant son monologue, Clotilde n'avait pas regardé Maria Chiara se maquiller. Le résultat était stupéfiant. Elle s'était peint le visage d'une diva de 30 ans. Des lèvres charnues rouge velours, de grands yeux noirs, des pommettes hautes et lumineuses, un front lisse et bombé. Une jouvence à en plonger dans la fontaine de Trévis sous les caméras de Fellini. Pas dans une pataugeoire en plastique immortalisée par les objectifs des iPhones en mode vidéo. Elle fit rouler le tabouret sur la moquette jasmin. Elle prit la main de Clotilde avant de répondre.
« Bien entendu, ma chérie, je me souviens de votre frère. Nicolas était touchant, différent, beau, plus que cela même. Il possédait une forme de gentillesse désarmante. À vouloir séduire sans vraiment y parvenir, à jouer si mal de la guitare, à se déshabiller en frimant alors qu'on le sentait pudique comme un petit enfant. Il était si émouvant la veille de l'accident. Ici même, sur la plage de l'Oche Lucia, près du feu de camp.
Clotilde la coupa sèchement. Et pourquoi Nicolas, ce garçon si charmant, si touchant, n'a-t-il rien dit? Pourquoi n'a-t-il pas osé parler à mon père? Pourquoi a-t-il préféré monter dans cette voiture quelques heures plus tard plutôt que d'avouer votre accident?
Nicolas aurait été incapable de faire ça.
La main de Clotilde sursauta. Celle de Maria Chiara la retint fermement.
Nicolas aurait été incapable de faire ça, répéta la starlette. Et vous le savez bien.
Des larmes commençaient à couler au coin des yeux de Clotilde. Sa main gauche chercha celle de Natale et sur le fauteuil voisin. La droite restait au chaud entre les doigts de l'italienne, emprisonnée dans une serre d'aigle aux griffes peintes rouge carmin.
Cherbonne et Spinello a raison sur un point. Je voulais être certaine que Nicolas savait conduire avant d'accepter sa fugue en Fuego. Votre frère a vraiment volé les clés de la voiture de votre père. Il m'a vraiment proposé cet essai, quelques minutes, jusqu'à Galeria. Mais la suite est un peu différente de la version de votre directeur de camping.
Nicolas conduisait avec prudence, sérénité, assurance.
Les griffes serraient les phalanges de Clotilde, doucement. Maria Chiara possédait les ongles rétractables d'une chatte.
Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai poussé le test au maximum. Bisous dans le cou, caresses sous son short, ou le mien. Mais il nous a ramenés à bon port sur le parking au camping des Eupproctes, sans la moindre sortie de route.
Clotilde se rappelait les mots prononcés par Cherbonne. Nicolas penchait sous le moteur de la voiture.
Il n'y a rien, il n'y a rien.
Approchant ses mains noires des dentelles blanches de Maria, qui se recule, l'insulte, s'enfuit.
Qui mentait?
Sa voix trembla.
Cherbonne vous a vu discuter sur le parking.
C'est exact. Je ne me souviens plus des mots précis, mais une fois descendue de la voiture, j'ai confirmé à Nicolas que le test était concluant, que j'acceptais de monter dans son carrosse avec lui une fois la nuit tombée. Mais à une seule condition.
Les doigts de Maria Chiara se crispèrent dans ceux de Clotilde, comme s'ils propageaient un courant électrique. Ceux de Clotilde se crispèrent dans la main de Natale.
À une seule condition, continua la starlette, qu'on s'y rende seuls, tous les deux, sans tous les autres abrutis du camping.
Les mots de Maria Chiara possédaient une vertu miraculeuse, la puissance d'une aspirine radicale à effet immédiat contre les pires migraines.
Cherbonne et Spinello avaient tout inventé.
Nicolas n'était coupable de rien, responsable de rien. Cette histoire d'accident n'était qu'une monstrueuse diffamation. In extremis, Clotilde était parvenue à retenir ses larmes, et à présent, une douce euphorie l'enivrait. Maria Chiara, au contraire, avait laissé les gouttes inonder ses yeux, puis couler, ravageant en quelques secondes le patient travail de la bellissima pour appliquer de la poudre de terre ocre sur chaque rigole.
J'ai attendu votre frère, Clotilde. Je l'ai attendu le lendemain. J'avais enfilé ma plus belle robe, une pluie d'étoiles autour des yeux, des roses dans mes cheveux. Je l'ai attendu toute la nuit. Je voulais que ce soit lui, mon premier. Lui et aucun autre. Oui, je l'ai attendu sous les étoiles, jusqu'à ce qu'elles s'éteignent une à une. Lorsque la dernière s'est noyée, j'ai pensé à lui comme au pire des salauds. Je suis allée me coucher avec ce mépris définitif pour les hommes. Et le lendemain matin, au réveil, j'ai appris. L'accident. L'impensable.
Les ongles carmin se plantèrent dans sa main, mais Clotilde ne la retira pas.
Je vous le jure, Clotilde, je vous le jure. Chaque fois que je fais l'amour, et Dieu sait si ça m'arrive souvent avec des hommes différents, pas une fois je n'oublie de penser à votre frère.
Si j'étais écrivain, je crois que cela ressemblerait à une dédicace. Quelque chose comme cela.
Oui, Clotilde, pas une fois je n'oublie de lui dédier cette petite mort qu'il n'a jamais connue. Que je lui ai refusée par défi, par connerie. Et peut-être que si aujourd'hui rarement je dis non, même au con, si rarement je reporte au lendemain celui que je peux foutre dans mon lit le soir même, c'est pour que Nicolas me pardonne.
Maria Chiara continua encore à pleurer des larmes et des mots, mais Clotilde ne l'écoutait plus. Son cerveau se concentrait uniquement sur quelques vérités. Maria Chiara ne mentait pas, cela crevait les yeux.
Cherbone et Spinello avaient donc tout inventé. Pourquoi ? Par jalousie ? Par méchanceté ? Ou bien le jeu de Cherbone était encore plus simple que ça ? Il suffisait de connecter deux faits avérés.
Cherbone avait inventé un récit d'accident pour expliquer pourquoi la direction de la Fuego était endommagée. Mais le sergent Cesare ou Garcia était formel. L'écrou avait été dévissé, la rotule avait cédé net, et d'ailleurs, le gendarme n'avait pas parlé de barre déformée. Il avait parlé d'un sabotage. Qui pouvait avoir intérêt à mentir sur la cause de l'accident de ses parents, sinon l'auteur de ce sabotage ?